Nous sommes le lundi 22 mars, youpi, c'est le printemps, il est 18h, vous écoutez Radio Campus Paris, c'est sur le web ou sur la FM et c'est l'heure de la relève.
La relève sur Radio Campus Paris.
Bonsoir, on vient de vous le dire et de vous le répéter, c'est l'heure de la relève et on est parti pour un quart d'heure où il sera question d'études supérieures, de thèses, de Bretagne et peut-être même de dépression. Anne Urbain, merci d'être avec nous par téléphone. Je ne sais pas si vous m'attendez. Bonsoir Anne Urbain, on est toujours en confinement et malheureusement vous ne pouvez pas être dans le studio avec moi. Je dois être seule face à mon réalisateur. Bonjour Anne Urbain.
Bonjour, moi je vous entends très bien.
Eh bien c'est parfait. C'est bien, on a l'impression de revenir à la préhistoire de la radio où on met des casques et où est-ce qu'on s'entend, tout ça c'est formidable. La Soutenance, c'est votre premier roman, il a paru aux éditions de l'Olivier au début de l'année 2021. Il a pour personnage principal Antoine, un anti-héros qui termine sa thèse dans la souffrance, on peut dire. Vous-même, vous avez fait une thèse, si j'en crois la présentation de votre éditeur. Pour commencer, je voulais vous demander à quel moment vous étiez-vous dit que la thèse avait un potentiel romanesque ?
Je crois que je me suis dit un peu dès le début de la thèse qu'il y avait un potentiel romanesque, peut-être pas avec ma thèse, mais plus avec mon sujet de thèse, où je travaillais sur des éditeurs tout à fait rocambolesques, des histoires d'éditeurs.
Vous avez travaillé sur la censure, hein, c'est ça, vous avez travaillé
voilà,
sur la censure.
Je travaillais sur la censure. Et mes recherches m'amenaient à découvrir des trajectoires de libraires et d'éditeurs que l'histoire a complètement oublié, mais qui avaient des vies pour le coup extrêmement romanesques. Et moi, je me suis complètement absorbée là-dedans pendant des années. Jusqu'à m'en extirper par la soutenance.
Alors au début du roman, Antoine veut arrêter sa thèse justement, mais lui n'arrive pas à le dire à sa mère, donc il continue. Il fait partie de cette longue famille des personnages empêchés, des personnages qui s'empêchent de faire ce qu'ils aimeraient faire. Le livre est très drôle, il y a une suite de péripéties de ce pauvre garçon qui n'arrive pas à s'arrêter et qui donc continue. Est-ce que vous êtes amusé à l'écrire ?
Ah oui, moi je me suis beaucoup amusée. Je l'ai écrit par tranche horaire assez restreinte. Je grappillais des heures par-ci par-là entre les vies complexes qu'on a tous et toutes. Hein. Et c'était ma récréation. Enfin, j'adorais retrouver les personnages. Je ne savais pas du tout à l'avance ce qui allait précisément leur arriver.
Ah oui, vous n'aviez pas de plan d'ensemble.
J'avais pas de plan d'ensemble et surtout il y a eu des bifurcations du récit à plusieurs moments, ce qui était un grand plaisir parce que c'était un peu mon Netflix à moi quoi.
Comme ça vous étiez spectatrice et autrice, c'est pas mal les deux à la fois.
Voilà, et puis jusqu'à assez tard dans l'écriture du roman, je ne savais pas si mon héros, puisque c'est la clé un peu de l'histoire, mais allait soutenir ou allait ne pas soutenir la thèse. J'ai gardé un suspense à mon propre égard assez longtemps.
L'intérêt de la thèse, c'est aussi que ça donne un comment dire, ça, c'est un compte à rebours finalement. À partir du moment où vous lancez le livre, vous savez qu'il y a un moment que ça va se terminer et ça vous a aidé à le construire ?
Alors, le compte à rebours de la thèse, il est finalement assez retors parce que j'ai d'ailleurs une pensée très amicale pour ceux qui nous écoutent, qui seraient lancés dans des mémoires ou dans des thèses ou pas des thèses d'ailleurs, des mémoires quels qu'ils soient, des travaux assez longs, parce qu'en fait le temps se diffracte complètement. Au début, on a l'impression qu'on a un océan de temps et puis on papillonne, on prend des chemins de traverse.
Un peu comme Antoine qui passe son temps à être diverti par d'autres sujets quand il est à la BNF.
Voilà, exactement. L'enchante, le passionne, l'intéresse. Et puis il y a quand même la dernière ligne droite. Et ça, c'est assez terrifiant parce que vient un moment où on n'arrive plus vraiment à être dans ce temps du plaisir. Et il faut être dans un temps du rendement, hein, de l'écriture, de la productivité, qui peut quand même laisser un peu beaucoup de monde sur le carreau.
Oui, puisqu'on est à Radio Campus, on peut le dire, hein, de mémoire, parce que là je ne l'ai pas noté, mais je crois que le livre commence début juillet, parce qu'on est un peu avant le 14 juillet, et il doit rendre début septembre pour pouvoir présenter un dossier avant la fin de l'année, pour être maître de conf, hein, si je ne m'abuse.
Il compte qu'il a 66 jours.
Il doit écrire 100
et alors, c'est tellement... Pardon, excusez-moi.
Non, allez-y, c'est moi. Il doit écrire encore une centaine de pages, hein, je crois.
Voilà, c'est tellement douloureux, cette fin de thèse, qui fait ses petits calculs d'apothicaire. Si en 66 jours, il arrive à produire 2 pages par jour, ou, enfin voilà, il fait ses calculs, puis il arrive à peu près à retomber sur ses pieds, mais complètement sous les rotules, parce qu'en même temps, sa vie familiale va imploser.
Oui, parce que c'est ça qui se passe. C'est qu'en même temps qu'il doit finir cette thèse, tout arrive, son frère aîné, qui est un peu le fils idéal, qui est parti à Londres, qui est un geek successful, comme on peut dire, qui est parti vivre à Londres, qui a une femme formidable, ils sont tous très beaux. Son frère donc arrive chez lui, sa mère se retrouve en chimiothérapie, enfin en tout cas a un cancer et va se faire soigner. La voiture se retrouve à la fourrière, bon c'est moins grave, mais quand même c'est pour lui un problème parce qu'il doit payer. Et les ennuis s'accumulent.
Oui, moi j'aimais bien cette idée de la loi des séries et puis de mettre ce personnage qui est un peu un personnage, un anti-héros, de le mettre dans une réaction en chaîne d'une existence qui part en vrille. Et j'ai toujours aimé, moi, ces choses-là, un peu comme dans le Cornio ou ces films des années 70 où il arrive un truc dans les 5 premières minutes et puis ça part en live, quoi.
Oui, c'est un peu un livre à la Philippe de Broca.
Oui, mais je trouve que c'est intéressant parce que finalement, on se dit, je pense qu'on a tous vécu comme ça des situations où on se dit, mais et si finalement il se passait ça, et si ça a dérapé, et si j'étais pas monté dans ce train-là, etc. Et puis c'est vrai que c'est rigolo.
Mais justement, moi, en lisant votre livre, je pensais plus à des films qu'à des livres. C'est donc très rigolo que vous-même, vous parliez de films plus que de livres. J'en dis, quels étaient les auteurs français qui vous intéressaient? Il n'y a pas beaucoup d'auteurs français qui soient drôles, qui pratiquent l'humour.
J'étais plus tournée du côté anglo-saxon parce qu'en plus, je vivais à l'étranger au moment où j'écris ce livre. Donc j'étais assez immergée dans la langue anglaise. Et après, c'est vrai que des comédies, Jonathan Coe ou David Lodge, moi ça me fait hurler de rire. Et puis au cinéma, non, il y avait ces films un peu rythmés sur la jeunesse et puis sur la difficulté à combler les attentes de la famille, de la société, etc. Des films à la Clapiche. Enfin, c'est vraiment. Moi, j'ai grandi avec L'Auberge espagnole. Donc, je crois qu'il y avait un peu de ça aussi.
Il y a aussi un peu d'Agnès Jaoui dont on connaît la chanson, qui est une des plus jolies thésardes qu'on ait jamais vues. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce film, mais elle est très dépressive.
Oui, bah, c'est la solitude du thésard qui voit très bien, puis la folie aussi, parce qu'il voit très bien la cohérence de son travail, de ce qui est un peu un château en Espagne, parce que brique après brique, année après année, on construit un truc assez délirant finalement, et qui n'est pas forcément communicable ou qu'on ne peut pas transmettre comme ça dans les soirées. Ça fait toujours un flop. C'est comme voilà, dans le film Jaoui, elle disait... De toute façon, moi, je fais une thèse pour faire parler les cons. Et c'est un peu ça, quoi. Enfin,
c'est les chevaliers de je ne sais plus quel lac au Moyen-Âge. C'est une scène récurrente qui est très, très drôle.
La Relève, sur Radio Campus Paris.
On est toujours avec vous, Anne Urbain. Vous êtes primo-autrice. Votre livre s'appelle La Soutenance. Il a paru aux éditions L'Olivier avec vous. On parle de thèse. Alors, est-ce qu'il y a une lecture féministe de votre livre? Parce que finalement, ceux qui sont dans les ennuis, c'est les deux garçons et un peu leur père. Et les femmes sont finalement assez zen. Notamment, il y a le personnage de Cid. Alors, je ne sais pas si vous l'avez dit dès le début ou si vous l'avez inventé en cours de route. C'est un personnage complètement incroyable. La petite amie.
Le personnage de la petite amie, je l'aime particulièrement parce que pour le
il est très réussi parce qu'il est très inattendu.
Ouais, c'est très gentil. Et pour moi, c'est vraiment un personnage romanesque, c'est-à-dire un personnage plus grand que nature. Où elle est très belle, elle est presque extraordinairement intelligente. Elle est complètement atypique et surtout, elle n'est absolument jamais où on l'attend. Elle a rompu avec une famille très conservatrice, très catholique, très bourgeoise,
très bretonne,
très jeune, très bretonne, très quimperoise. Elle est partie à 18 ans, elle a tracé sa route en se disant un peu à chaque moment de sa vie, mais qu'est-ce que moi je veux, quelles sont les choses dont j'ai envie, et elle a énormément de courage. Elle est vraiment dans la vie, je pense qu'elle fait exactement ce qu'elle souhaite faire, elle est vraiment sa propre boussole, et Antoine, qui donc est son ami, ils sont en couple, et complètement admiratif et tout à fait incapable d'agir comme ça, puisque lui, à l'inverse, il y a un écart énorme entre ce qu'il rêve de faire, puisque bon, il rêve quand même de tout plaquer et puis de se consacrer à des choses. Enfin, je pense qu'il rêve d'être écrivain, Antoine, et sa vie qui est le pensum à la Bibliothèque nationale.
Et donc, c'est une lecture féministe ou c'est parce que ce personnage vous a amené là ? Moi, j'étais très frappé entre les hommes. C'est les hommes les moteurs des problèmes, qui créent des problèmes en permanence. C'est le père, c'est le frère, c'est Antoine. Les femmes, elles les résolvent, les problèmes, les uns après les autres.
Oui, tout à fait. Alors, on peut le dire comme ça. Moi, je me suis aussi pas mal demandé pourquoi ça avait été aussi naturel et aussi logique pour moi de me projeter, parce qu'il y a quand même pas mal de projections sous la caricature et sous l'humour. De me projeter dans un personnage masculin. Et d'ailleurs, ça a dérouté pas mal d'amis qui se sont dit « mais je m'attendais à avoir un personnage principal féminin, c'est quand même assez étrange ». Et je crois que c'est une question que je n'ai pas tout à fait résolue encore, mais je pense que c'est beaucoup lié à mes lectures et à mes études, et j'espère que ça a changé quand même depuis. Et là, s'il y a des étudiants en lettres qui vous écoutent, c'est... Je pense qu'on a été, nous, de ma génération, moi je vais bientôt avoir 40 ans, mais on a été biberonnés à des auteurs classiques qui étaient essentiellement des hommes, avec des personnages d'hommes, des mondes d'hommes. Et je me rends compte, moi, au moment de passer à la création, de créer, qu'en fait, je me suis pensée de manière masculine pendant des années en dévorant des livres. Donc j'espère dans les livres à venir essayer quand même de bah, ça pose question, je trouve ça même assez terrifiant en fait.
Votre livre parle aussi de la situation actuelle, vous parlez, Antoine travaille aussi dans un lycée de banlieue dont vous faites une description, je crois qu'on peut dire apocalyptique et effrayante. Les gilets jaunes jouent un rôle dans une scène finale assez délirante, mais vous faites toujours de façon latérale, donc vous vouliez l'inscrire dans le temps sans être trop engagé. Ça vous fait peur, le roman engagé?
Alors, il y avait un peu de questions. La question des gilets jaunes, c'est que moi, comme je vous le disais tout à l'heure, j'étais à l'étranger en 2016-2018, au moment où se passe le roman. Et donc, les gilets jaunes, je l'ai vu du point de vue de l'étranger, en l'occurrence de l'Angleterre, et j'avais un rapport un peu en différé et distancié à cette actualité. Que je maîtrisais assez mal, donc j'avais envie qu'elle soit présente dans le roman, mais j'avais pas non plus envie de parler ce que je ne connaissais pas. Et en revanche, le lycée, qui est pour Antoine, donc il est prof de lettres dans un lycée, pour ça je connais très bien, ça fait 15 ans que j'enseigne en région parisienne, en Seine-Saint-Denis, j'y enseigne toujours. Et j'avais envie, oui, pas de le stigmatiser. En fait, je trouve que dès qu'on a un personnage de prof aussi, surtout de prof dans le 93, ça y est, c'est l'avalanche des clichés. C'est assez insupportable. Et j'avais pas envie que ça bouffe le personnage. J'avais pas envie que ça le phagocyte. Et en même temps, j'avais quand même des choses à dire. Et la caricature, vous parlez d'une situation apocalyptique. Mais en fait, ça a été le fruit de détails tout à fait véridiques. En fait, ça fait froid dans le dos, mais c'est pas si caricatural que ça, finalement.
Mmh. On arrive tout doucement vers la fin. J'ai même un peu débordé, mais personne ne dira rien, c'est pas grave. C'est plus difficile d'écrire un roman ou une thèse ?
C'est plus difficile d'écrire une thèse. Je ne sais pas si c'est très encourageant pour les étudiants. Accrochez-vous.
Ouais, moi je suis d'accord avec vous. De toute façon, tous ceux qui en ce moment écrivent, on pense à eux et qui ne lâchent rien surtout et ils font un beau métier. Vous allez l'envoyer votre roman au ministre de la Recherche ?
Alors, l'ai envoyé. Je dis juste une petite anecdote. Tous les 4 ans, on renvoie un truc administratif délirant, hyper gros, pour être à nouveau qualifié. Donc, j'ai mis que j'avais le livre sur, comme pièce à apporter à mon dossier. Mais mon doigt a ripé, j'ai demandé ma qualification en histoire archéologie des mondes antiques, j'ai jamais foutu les pieds. Donc il se trouve qu'on m'a refusé en tout cas ce dossier-là au motif que vraiment je m'y prenais comme une cruche en administration. Voilà.
Et alors quand même, ce roman est publié aux éditions de l'Olivier, qui ont été créées par Olivier Cohen il y a 30 ans. On fête cette année les 30 ans de l'édition de l'Olivier, qui est quand même un éditeur important dans le paysage français. Est-ce que vous l'avez choisi et qu'est-ce qu'il représente pour vous, les éditions de l'Olivier ?
On s'est choisi un peu mutuellement. C'est la première maison qui a lu le texte et c'est la première c'est la seule du coup qui l'a tout de suite accepté. Moi, c'est vraiment une maison que j'aime beaucoup parce que j'aime bien la littérature anglo-saxonne, donc on s'y régale. Enfin, c'est vraiment une ouverture sur l'Angleterre, les États-Unis, sur l'Irlande, sur Israël. Enfin, c'est vraiment assez génial. Et je trouve que à l'heure où on est quand même beaucoup bordé par des algorithmes et des recommandations comme ça, une maison comme l'Olivier, je trouve, a cette particularité de proposer des pépites qui, alors ça c'est la magie de l'édition, sont à chaque fois assez géniales en fait. Donc y a un vrai choix des livres, ce qui devrait être en fait le travail de tout éditeur.
Ouais. Moi, à titre personnel, pour finir l'émission, j'avais décidé de citer 3 titres pour ces 30 années. Jonathan Lethem, Chronic City et rien d'autre, James Selter et le roman du mariage d'Eugénie Dess. Anne Urbain, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes l'auteur de La Soutenance aux éditions de l'Olivier. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'ai ripé sur le générique. L'émission était préparée et présentée par Christophe. Elle était assurée par Colin. C'était une première fois cette collaboration. J'espère qu'elle s'est bien passée. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Vous retrouvez Radio Campus à 20h avec Pièces Détachées. D'ici là, le programme musical vous accompagne. Merci de nous avoir suivis.
Radio Campus Paris.